Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, je vous propose que nous fassions une lecture dans l'évangile de Matthieu, s'il vous plaît. Et nous allons méditer sur un texte, un personnage, comme il y en a tant dans la Bible, qui nous enseigne la foi, de par leur expérience, expériences diverses, expériences tout à fait particulières, comme celui dont nous allons, citer le nom d'ici quelques instants. Alors, Matthieu, chapitre 27, et le paragraphe à partir du verset 57. Le soir venu, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Joseph, après avoir accompli ce qu'il avait à cœur de faire, de réaliser, eh bien, il nous est simplement dit qu'il s'en alla. Alors, j'ai voulu intituler, j'ai donné un titre à notre méditation ce matin, qui est, ce titre est le suivant, « Disciples de l'ombre ». C'est marqué dans notre texte, nous pouvons en déduire que il s'est peut-être caché, mais toujours est-il qu'il apparaît au moment où Jésus est crucifié et il va lui-même accompagner le corps de Jésus dans ce cimetière, en quelque sorte. Alors il a accompli sa tâche au grand jour, et on pourrait peut-être l'appeler le disciple du soir, hein, celui qui arrive à la fin. Oui. Alors, c'est un personnage des plus discrets. C'est pour ça qu'on peut l'appeler disciple du soir, disciple de l'ombre. Et nous voyons qu'il est le type d'israélite, peut-être on pourrait changer les mots, le type de chrétien, bon, avant le temps naturellement, disciple de Jésus, mais il est en secret. C'est un homme qui, finalement, ne fait pas parler beaucoup de lui dans la nature de sa foi, dans sa découverte de Jésus-Christ, disciple de Jésus, en secret, comme d'autres, d'ailleurs, que je cite pour votre mémoire. Il y a le vieux Siméon. Alors là, c'était pas à la fin de l'existence de Jésus, c'était au tout début, hein. Et il va monter au temple, ce Siméon. Il y a Nathanaël, qui lui, à travers beaucoup de doutes et de scepticisme, va aussi rester dans l'ombre jusqu'au moment où là, Jésus va faire son apparition à cet homme. Il y a naturellement, forcément, ils sont amis, hein, Nicodème. Ils sont de la même classe religieuse. Et Nicodème, lui, va venir de nuit. On pourrait dire disciple de la nuit pour lui. Il y a l'officier romain également. Vous savez, celui qu'on appelle Corneille, hein, et qui là, quelque part, va avoir une vision. On peut le dire aussi. Et puis, il y a tant d'autres comme ça. Parce qu'on connaît, on a fait le recensement, on les a mentionnés dans l'Évangile, tous ces personnages qui ont marqué quelque part, d'une manière ou d'une autre, soit par l'enthousiasme de suivre Jésus, de parler de Jésus, Il y a les 70 et il y en a bien d'autres. Mais il y en a d'autres aussi qu'on ne connaît pas et qui sont restés très discrets dans toute cette situation, dans cette aventure eh bien, du Christ au milieu de nous. Il nous est dit que c'est un homme riche, quelqu'un qui avait naturellement un anti, on pourrait dire, et d'une manière courageuse, il n'avait peut-être pas été jusqu'à maintenant, mais il l'est maintenant, au moment où Jésus est crucifié. Et il va oser aller devant Pilate, qui est le procurateur romain, le premier personnage, hein, finalement, de cette province, pour demander à Pilate, pour demander à celui-ci de recueillir la dépouille mortelle de Jésus, qui a été crucifié le même jour. Vous savez, dans l'Orient, les choses vont très vite. Et on comprend pourquoi, à cause, naturellement, eh bien, du climat et toutes sortes de choses. Alors voilà un petit peu pour camper la situation. Et Joseph, sans attendre, dès qu'il a l'autorisation du proconsul, eh bien, va naturellement s'employer au corps du crucifié des soins mortuaires. Il va apporter ce qui est nécessaire. Il enveloppe le corps de Christ dans un linceul blanc, naturellement. C'est le texte, hein, je le relis en quelque sorte. Le dépose dans le sépulcre neuf qu'il s'était réservé lui-même, tout simplement Joseph, et il va rouler la pierre et il va s'en aller. Il va partir. Il va laisser les choses en l'état comme ça. Hein. Tout est prêt, tout a été fait, tout est... on pourrait dire peut-être dans les normes, et il va s'en aller. Il ne sait pas ce qui va arriver après. Christ s'en est allé, mais Joseph aussi va partir, il ne va pas rester là naturellement. Il ne va pas veiller, on pourrait dire, comme dans nos traditions catholiques, chrétiennes. Joseph, je l'ai dit tout à l'heure, est un homme important. C'est un conseiller de distinction, c'est un grand personnage de la haute société politique et religieuse de son temps. Il est, je l'ai dit, je le souligne et je le rappelle, en quelque sorte, il a des atomes crochus avec son ami Nicodème. Ils se ressemblent, hein ? Et ils ont tous les deux, quelque part, quelque chose en commun, c'est qu'ils ne veulent pas s'afficher. Disciples de l'ombre. Et nous nous apercevons qu'il gardait quelque chose dans son cœur, Joseph, tout simplement, l'espérance de la venue du royaume de Dieu sur la terre, parmi les Juifs naturellement. Il croyait à la réalité du Messie annoncé depuis des siècles et des siècles, le royaume, tout simplement, eh bien, de Dieu. Et il est connu pour être un homme juste et bon. D'ailleurs, on le voit bien dans ses prodigalités. Hein, lorsqu'il amène les aromates, il amène le linceul, il donne tout simplement eh bien, l'espace de sa sépulture qui avait été préparée pour lui, il l'offre. Quel cadeau, hein, c'est quelque chose, cette prodigalité, nous pourrions dire. Alors, on le qualifie, on peut l'identifier à quelqu'un de bon, à quelqu'un de juste. Et il faut dire aussi, il n'a pas fait de bruit, mais toujours est-il qu'il n'a pas participé au verdict de la condamnation de Jésus, c'est-à-dire la crucifixion. Apparemment, il n'en est pas parlé, mais je pense qu'il y a un autre texte qui nous le dit. Le talon d'Achille de Joseph, eh bien, c'est que, quelque part, c'est un disciple et un admirateur de Christ qui a entendu sa parole, qui s'est certainement, eh bien, là, imprégné de sa connaissance de la foi judaïque, la loi de Moïse, mais en plus ajouté, et c'est pour ça qu'il était convaincu que Jésus était le Messie, c'est pour ça que véritablement il va faire tout ce qu'il fait, et c'est un, je le répète, un disciple non déclaré, et ouvertement, eh bien, on peut dire aussi que il n'est pas partisan de ces fâcheux coreligionnaires qui, quelque part, eh bien, ont rejeté la messianité. Il n'est pas comme ça. Je pense qu'il ne nous est pas dit les premiers pas, les premières rencontres avec Jésus, mais toujours est-il qu'il a été touché dans son cœur. Parce que, quelque part, la foi, c'est ça. Hein. Ce n'est pas d'adhérer à une religion, ce n'est pas d'épouser une pensée religieuse philosophique ou quelque adhésion. Mais véritablement, eh bien, il s'était mis de côté. Et pour lui, c'était le prophète de Nazareth, le Messie, loin de Dieu. Pourtant, Joseph attendait l'avènement, tout simplement, du Fils de Dieu. Et pourtant, contrairement à tous les courants qui pouvaient se faire entendre, au moment où Jésus est venu, les uns disaient d'une manière, les autres d'une autre, et nous apercevons que, fiévreusement, comme Siméon, il attendait tout simplement la venue de Jésus le Christ. Et on le voit chez, par exemple, eh bien, Nathanaël, Nicodème, etc., etc. Et Jésus est mis à mort. C'est une véritable ignominie. Ah oui, quelque chose, un blasphème, quelque part, à ce que Dieu avait annoncé. Et nous pouvons aussi ajouter que Joseph n'a jamais osé s'afficher pour Jésus ouvertement, je l'ai dit et je le répète. Et le texte est clair, il nous est dit que parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, en Jésus, mais à cause des pharisiens, et nous avons la raison de la discrétion, de cette mise à l'ombre, nous pourrions dire. Et nous voyons que, je répète, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, à cause de la classe dominante religieuse en Israël, ils ne faisaient pas l'aveu, mais donc dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Vous imaginez un peu? Ils avaient peur d'être exclus, d'être jugés, d'être condamnés par tout simplement eh bien, le monde religieux de leur temps. C'est quelque chose, hein. Il y a encore probablement des gens par millions dans notre monde. Dans les religions chrétiennes, je parlais que de cela, mais de perdre finalement le privilège, oui, le privilège d'être en dehors de l'Église pour ce qui nous concerne. Et en raison de cela, eh bien, ils faisaient leur petit bonhomme de chemin, nous pourrions dire, dans une foi des plus discrètes. On ne savait pas trop. Il y avait peut-être que leurs amis qui savaient. Mais parce qu'ils aimèrent, et le texte nous le dit, hein, c'est peut-être pas forcément pour le personnage de Joseph, mais ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Il faut être courageux. Hein. Eh oui, vous savez, on a vu passer des dizaines et des centaines de gens dans nos églises qui ont été touchés de prime abord, qui ont entendu l'Évangile, et qui peut-être sont venus nous dire, mais vous savez, j'ai entendu aujourd'hui un message extraordinaire, non pas à cause du prédicateur, hein, parce qu'il compte pas dans cette affaire, mais à cause de ce que j'ai entendu, alors vous pouvez me compter maintenant parmi mon membre. Et quelquefois, on ne les a jamais revus. C'est quand même très léger. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, moi, je crois personnellement que peut-être ils sont partis avec un trésor et ils l'ont gardé pour eux pendant tout le temps de leur vie. Ou peut-être qu'à la fin, eh bien, ils se sont véritablement... Comme nous le disons et comme on va en reparler, que c'est une parole du livre des Actes, quand Jésus nous dit « Quiconque invoquera mon nom, quiconque invoquera le nom de Christ sera sauvé. » Alors c'est vrai que tout ça, c'est quand même assez mystérieux. Ce que nous pouvons porter dans notre cœur, ce que nous pouvons avoir dans notre cœur. Et puis, il y en a qui vont faire leur chemin public, populaire, ils vont finalement savoir, tout le monde saura. Ils sont chrétiens. Tout le monde saura que, eh bien, ils appartiennent à telle communauté qui est de moindre importance, parce qu'on appartient au royaume de Dieu, hein, d'abord. Hein. On est bien d'accord. Mais il y en a qui vont passer toute leur vie dans le silence, ou une partie de leur vie, ou une toute petite partie de leur vie. Et à ce moment-là, eh bien, on peut-être dans le ciel, on le sait, sur la terre, on ne le sait pas. Mais à ce moment-là, on peut penser que ces gens-là, eh bien, ils ont fait une expérience avec Jésus. Peut-être, pour différentes raisons. Peut-être comme cela pour les Juifs de cette époque. Ils aimèrent la gloire de Dieu plus que la gloire. Ils aimèrent la gloire des hommes. Oui, c'est ça. La gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alors, on n'a pas à juger dans cette affaire. Ouais. Gardons-nous de juger et de prononcer l'arbitraire en disant, ben voilà, ils sont sauvés, ils sont perdus. Moi, je me suis méfié, je me méfie de tout cela. Parce que je me dis, après tout, le salut, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. c'est quelque chose qui nous appartient. Et quelquefois, quelles que soient les déclinaisons que nous pouvons donner à notre foi et à notre démarche chrétienne, ça ne regarde pas les autres. Enfin, dans une certaine mesure, naturellement. Quand il y a communion fraternelle, quand il y a travail en commun, toutes sortes de choses, d'accord. Mais quelque part, vous savez, il y a des secrets dans les cœurs de chacun. Et il n'y en a qu'un qui le sait, c'est Dieu. Ça, c'est clair, c'est clair. Alors, on comprend Joseph. On comprend probablement, eh bien, là, Nathanaël, on peut comprendre Nicodème. Pourquoi ils étaient ainsi, pourquoi les choses étaient ainsi, eh bien, pour eux. Alors, quand l'heure fatidique arrive, Joseph est le seul à dire et à faire ce que d'autres, effrayés, refusent de dire et de faire. Ouais. Là, c'est le déclenchement quand il voit, était-il là ? En tous les cas, ils en ont entendu parler qu'on était en train de mettre le prophète de Nazareth sur la croix. Il avait été, parce que ça avait fait du bruit, hein. Et même le Sanhédrin dont Joseph faisait partie, parce que tout le jugement a touché toutes les dimensions, hein. La dimension religieuse avec Caïphe et puis tous ses comparses. Et également, d'autres également qui ont été interpellés, le pouvoir politique, quand... Le jugement de Jésus a été en cours à ce moment-là. L'ensevelissement de Jésus, eh bien, lui n'a pas refusé de s'occuper d'un mort déclaré faussement criminel. Ouais. Et c'était véritablement un procès de grande injustice qui subsiste encore aujourd'hui. Vous savez, les gens qui sont morts il y a 2000 ans, au même temps que Jésus, on n'en parle plus. Mais par contre, Jésus, il a demeuré à travers tous les siècles qui sont les nôtres. Hein. Ouais. Hey, c'est gravé dans du marbre, et plus que dans du marbre, hein, sur la terre et dans le ciel. Alors, un mort déclaré faussement criminel. Quand Jésus vivait, j'insiste là-dessus, parce que je compte quand même sur l'importance du titre, hein, l'homme de l'ombre, le disciple de l'ombre. Et je dirais que quand Jésus vivait, Joseph se cache. En tous les cas, il ne fait pas état de sa foi. Mais maintenant que Jésus est mort, Joseph se montre au grand jour. Ça, c'est quand même curieux, hein, ces attitudes. Au temps de la popularité de Jésus, il ne se mêle pas, il reste à distance, il écoute, il voit, il prend. Peut-être avait-il fait des expériences pour lui personnellement. Joseph se cantonne, se tient dans un prudent secret, mais au moment où Jésus est rejeté, alors... il est présent en train d'accomplir le plan divin prophétisé. Eh oui, est-ce qu'il connaissait un texte dans la Bible où Jésus... Oh, il y en a des textes, regardez simplement Ésaïe 53. Vous en avez dans d'autres passages. Vous avez des préfigurations, vous avez des typologies dans certains personnages où là, eh bien, les hommes... vont véritablement accomplir les prophéties de Dieu sans savoir que le temps est arrivé pour eux. Et ils vont soit dire, soit écrire, soit vivre. Eh bien, parce que la parole de Dieu est à l'intérieur et le Saint-Esprit est en train de leur donner un message pour dire aux autres le plan divin prophétisé. Dans sa mort, il a été avec le riche, Jésus, je parle, hein. Et il a été enseveli dans le tombeau du riche. C'est écrit, ça. Joseph, magistrat considéré, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, prend le risque insensé d'ensevelir Jésus, ce qui peut-être plus tard nuira à sa carrière ou à sa réputation. Mais ça, on ne le sait pas parce qu'on n'entend plus parler de Joseph. Je voudrais souligner quelque chose, c'est que l'attitude scélérate, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. Ça existe encore, cette attitude de scélérat dans notre monde, hein, et on en voit de plus en plus. L'attitude scélérate de ses collègues du Sanhédrin, se prononçant avec véritablement toute leur force pour l'élimination de Jésus, prend une tournure criminelle. On voit, crucifie, crucifie-le. Et nous voyons aussi, nous pouvons le dire, un très peu de renseignements sur Joseph d'Arimathée, mais néanmoins, il y en a quand même. Joseph n'assiste pas à la curée je dis bien à la curée, vous savez, comme à la chasse, hein, au gros gibier, hein, à la curée scandaleuse. Joseph, à ce moment-là, a un sursaut aussitôt. Alors, aussitôt, il se précipite pour solliciter à Pilate une sépulture digne pour un crucifié dont la condition était la fosse commune, autant dédiée aux meurtriers qu'aux esclaves. Et lui va dire, écoute, moi, je voudrais faire quelque chose pour cet homme, pour Jésus de Nazareth, qui a été traîtreusement, eh bien là, livré, qui véritablement eh bien, a souffert sur la croix, parce qu'il faut s'imaginer ce que peut être une crucifixion. Hein. Et c'est quelque chose de terrible. Et nous voyons que Joseph, en disant les mots comme il faut les dire, avec cet adverbe, en ensevelissant royalement, Jésus va donner la preuve de la très prochaine résurrection. Joseph s'en alla, mais il ne sait pas ce qui va arriver. Et il était certainement dans un état d'âme qui était terrible. Une grande déception. Vous savez, comme les disciples d'Emmaüs. Oui, c'est possible tout cela. Hein? Et nous voyons qu'il va vouloir véritablement ce qu'il y a de meilleur, ce que l'on peut donner. Une sépulture royale. Comme Jésus avait eu une naissance royale. Vous connaissez l'histoire des mages. Oui, parce que Jésus est roi. Et là, il va accomplir quelque chose de prophétique aussi. Et il veut que les choses soient ainsi. Il ne peut pas aller plus loin en tant qu'homme. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas ressusciter un mort. Qu'est-ce que l'on peut faire de plus? Et il a fait ce qu'humainement parlant, eh bien, c'était possible, tout simplement. Et il va véritablement, eh bien là, donner la preuve, et je le répète, de la prochaine étape qui sera la résurrection glorieuse de Jésus du tombeau de la mort. Ainsi, bientôt, le tombeau sera constaté vide. Plus rien. Et ça, ça a dû être quelque chose d'extraordinaire pour les disciples. Ça a dû être quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'au bout, faire du bien au prophète de Nazareth. Jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas aller plus loin, ce n'est pas possible. Mais là, Dieu réserve un cadeau aux hommes. Le plus grand de tous les cadeaux. Le plus magnifique, le plus somptueux, le plus céleste des cadeaux. Finalement, la mort vaincue. Qui s'aventurerait à défendre une cause perdue? Oui, il y a des avocats qui se lancent dans cette aventure, hein. Encore aujourd'hui, bien sûr. Mais c'était quand même quelque chose de grand et de pathétique, nous pouvons dire. Pourtant, passé le troisième jour, et là ce n'est pas une intervention humaine comme celle de Joseph, c'est une intervention céleste. Il nous est dit qu'un ange vint rouler la pierre, elle avait été roulée dans un sens par Joseph, et maintenant elle va être roulée avec, nous pourrions dire, un envoyé, un agent céleste qui va rouler la pierre dans l'autre sens. Et qu'est-ce que l'on trouve? Eh bien, Jésus apparaît, il est vivant, il est ressuscité. Et ça, c'est notre espérance à nous. Eh oui! Joseph en fait la démonstration à travers tout ce que nous venons de dire jusqu'à maintenant. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est aussi ce qu'il y a de plus cher pour chacun d'entre nous. Eh oui! Je crois que c'est l'apôtre Paul qui écrira dans Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15, il dira, mais si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est donc vaine, et notre foi, elle est réelle. Pour chacun d'entre nous, nous croyons à la résurrection de Jésus. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, j'en serai complètement incapable et insuffisant, mais une chose qui est certaine, c'est que nous croyons que Jésus est mort pour que les morts vivent à nouveau. Peut-être pas tous, mais moi je pense que quand il y a une petite graine, une petite semence de foi dans le cœur, je dirais, c'est suffisant. Eh oui, il y a les incrédules, il y a les rebelles, il y a les révoltés, il y a ceux qui pêchent à main levée et qui disent Dieu n'existe pas, les libres penseurs, si vous voulez. Mais partout il peut y avoir, et quelles que soient les déclinaisons, parce que moi je crois qu'on n'est pas tout seul évangélique à être sauvé. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Parce que moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Hein. Je suis d'origine catholique, j'ai été élevé dans le milieu. Et je peux vous dire que Dieu n'a pas regardé, aller me chercher, quelque chose de personnel. Mais aller me chercher pour faire de moi, eh bien, non pas un chrétien évangélique, mais un enfant de Dieu, un fils de Dieu, comme chacun d'entre vous d'ailleurs. Ça nous ramène véritablement, eh bien, à la grandeur de l'œuvre de Jésus pour chacun d'entre nous. La moralité, je voudrais citer ce passage. Il nous est dit, et ça c'est les paroles de Jésus, il nous est dit, il nous faut faire pendant qu'il fait jour les œuvres de Dieu, parce que la nuit vient, tout simplement, où personne ne peut travailler. Vous vous souvenez de ce texte, hein ? Et puis un peu plus loin, le jour sur le chemin d'Emmaüs, il nous est dit qu'à un moment donné, le jour est à son déclin. Et là, il y a aussi, dans la désespérance des disciples d'Emmaüs, eh bien quelque chose de terrible. Alors, à quoi ça sert ? Nous avons espéré pour rien. Voilà, notre ami Jésus est mort. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Et même dans le secret, il y a un voile derrière tout cela. Et ils vont rencontrer Jésus sur la route. Et Jésus va leur parler. Ils ne sont pas capables de le reconnaître. Et à un moment donné, quand Jésus va être à table avec eux, parce qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire, alors ils se mettent à table et Jésus, tout simplement, en célébrant, en quelque sorte, la résurrection à travers le repas de Sainte-Cène, là, les yeux vont s'ouvrir. Et il nous est dit, à ce moment-là, tout le monde pensait comme la majorité, le jour est à son déclin. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire de plus ? Non, puisque la nuit va venir. Oui, mais la nuit précède le jour. Et ça, nous arrivons au grand jour, quelque part, au grand jour de Dieu, le jour de Dieu. On peut le dire de cette manière. Il faut faire pendant qu'il fait jour, eh bien, les œuvres de Dieu. Et moi, je crois que quelque part dans cette parole, eh bien, nous pouvons dire que notre ami Joseph d'Arimathée a fait ce qui était possible, ce qui était son possible. Et il l'a fait. Il ne l'aurait pas fait avant, mais il l'a fait maintenant. Et il n'est jamais trop tard. Quoi qu'il en soit. Alors, il faut faire pendant. Et cela implique quelque chose dont Joseph d'Arimathée a bien voulu s'astreindre à faire le sacrifice de soi-même. Eh oui, le sacrifice de soi-même. Nous avons besoin dans nos églises de prêcher aussi le sacrifice de nous-mêmes. On n'est pas venu pour être servi, on est venu pour servir. Ça, c'est une chose. Et puis, surmonter la peur des hommes. Ah oui. Moi, j'ai remarqué qu'il y a plus de peur des hommes que de la peur de Dieu, même parmi les chrétiens. Ah oui. On tremble plus devant les hommes que devant Dieu. Et courageux sont-ils, ceux qui, quelque part, dans des temps de persécution, dans des temps de tribulation, dans des temps de dévastation, comme on le voit dans certains pays aujourd'hui, et peut-être nos missionnaires qui sont sur d'autres terrains, d'autres champs de mission, qui quelque part, eh bien là, ont le courage haut, bien haut, de dire, eh bien là, en effet, qu'ils sont venus, ils sont là, pour servir ce Dieu invisible. Eh oui, parce que c'est quand même paradoxal, hein, quand même, chez nous. C'est l'apôtre qui le dit à un moment donné, que... Vous qui croyez sans l'avoir vu. Ouais. Vous qui le servez encore d'une manière aléatoire, enfin bon, avec votre cœur, avec votre âme, dans votre esprit, tout simplement. Hein. Alors, peur des hommes, cependant parmi les Juifs, plusieurs crurent en lui. Et ça, c'est un rapport qui nous est donné. Et il nous est parlé justement de cette petite graine à un moment donné. Quel magistral témoignage qui ouvre la porte à toutes les audaces et à tout le courage de Joseph qui a enseveli Jésus pour ressusciter. Écoutez ce principe, c'est le principe de la foi, c'est un principe que nous trouvons dans toute la Bible, l'Ancien Testament, mais particulièrement dans le Nouveau Testament, quand il est dit ceci, « en vérité ». Et vous savez, quand Jésus nous dit « en vérité », c'est qu'il marque l'essentiel de la pensée. Pensée supérieure. En vérité, si le grain de blé ne meurt, il demeure seul. C'est-à-dire qu'il va disparaître. Il n'y aura aucune fécondité, aucune fertilité. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est ça ce que nous sommes appelés. Eh oui, il n'y a pas de fruits tardifs. Il n'y a pas de fruits précoces. il y a le fruit, un fruit qui vient de l'Esprit de Dieu, qui nous a été donné pour que nous soyons au bon moment, dans le bon temps, et faire ce que nous avons besoin. Mais il faut mourir. C'est une nécessité. Une nécessité. Si le grain de blé ne meurt. Alors, témoins de l'ombre. Témoins de l'ombre, ceux qui n'arrivent qu'au crépuscule. Ceux qui n'arrivent que le soir, à la dernière heure. J'ai eu l'occasion, dans l'exercice pastoral, ministère, de voir des gens qui sont venus très tôt. Nous nous sommes convertis jeunes. Mais j'ai vu des gens qui venaient dans l'âge du milieu. J'ai vu des gens qui venaient dans la blanche vieillesse. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de formidable, parce qu'il y en a pour tous. Et je pense que, témoins de l'ombre, ceux qui n'arrivent qu'au crépuscule, oui, le soir, on pourrait dire, mais la vie est finie, il n'y a plus rien à faire. Il y a des gens peut-être qui rétorquent, maintenant je suis trop vieux. Mais non, on n'est jamais trop vieux. On a baptisé des gens, et vous en souviendrez de certains ici et ailleurs, où véritablement, les gens étaient au soir de leur vie. Moi-même, j'ai accompagné des gens au dernier moment. Au dernier moment. Ouais. J'en parlais avec mon épouse hier, hein, parce que c'est un souvenir. Un jeune, il avait 40 ans, et il a été pris par un... Il a été saisi par un conseil, un cancer foudroyant. Et je me souviens, sa femme nous a fait appeler, il était à l'article de la mort, c'est ce que l'on dit. Hein. Je revenais d'une réunion à Cholet un samedi, et on est allé tout de suite à l'hôpital. Et il était venu deux ou trois fois dans nos réunions, le vendredi soir à Angers. Et là, il ne lui a pas fallu longtemps hein, pour comprendre l'Évangile. Et quand on s'est vu pour la dernière fois, c'était, je vous dis, un samedi soir, on est allé, on a prié pour lui. Vraiment, on a eu, non pas une sensation, non pas une déduction, mais il a donné son cœur au dernier moment, et ensuite, il est mort. Ouais. Alors, ce sont des mystères, tout ça. Et moi, je dis que, quelque part, on n'a pas à chercher le pourquoi et le comment. Pourquoi Dieu fait-il ainsi, etc., etc. Cet homme, il n'a pas fait au moins 5 réunions d'évangélisation pour comprendre. Non, même pas. Il a été touché par un cancer soudain, transporté à l'hôpital. On a pu prier avec lui et là, il était véritablement éveillé. Il prenait le message de l'Évangile et aussitôt, il est décédé. Je me dis, je l'ai vu plusieurs fois, ça. C'est pour ça, je crois qu'il y a une formidable espérance. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des gens. Alors nous, on a 45 ans maintenant de conversion, ou 50 ans. Et on pourrait dire, mais Seigneur, tu ne nous as pas pris plus tôt. On n'a pas envie, hein, naturellement. Mais une chose qui est certaine, on pourrait se dire, mais tu as pris du temps quand même avec nous hein, pour qu'on arrive à comprendre. Hein. Oui, il y en a qui partent vite et d'autres qui partent comme ça, tout simplement. Qui partent dans le temps. Et ça, c'est une œuvre de Dieu. Et moi, je crois à l'œuvre de Dieu plus que ce que je pourrais faire moi-même. Moi, je suis un peu comme Joseph d'Arimathée. Hein. On s'est caché. Oui. Mais à un moment donné, eh bien, vraiment, le Seigneur eh bien, est capable de faire autrement. Et ça, c'est le secret de Dieu. Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus est mort pour sauver tous les hommes. Ouais. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et ce n'est pas de la faute de Dieu, parce qu'il appelle. Mais une chose qui est formidable dans cette affaire, c'est que Dieu sait le pourquoi, le comment, le quand, le où. Voilà, si vous voulez, hein. C'est un peu... Ne soyons pas ou ne soyons plus des disciples en secret. Moi, je parle pour vous parce que nous avons encore certainement un avenir et de l'espérance à vivre sur cette terre. Mais nous sommes chrétiens et nous avons certainement encore quelque chose qui nous est réservé. Peut-être nous pouvons attendre des années, des décennies sans faire grand-chose. Et à un moment donné, une seule œuvre sera la nôtre pour notre vie. Eh oui. Alors, je pense que tout cela, eh bien, Parce que Dieu, si on le sait, si on va tenir ou on ne va pas tenir dans la vie chrétienne. Parce que vivre dans une église, c'est un challenge. Il y a des combats, il y a des luttes, on a tendance à l'oublier. Il y a toutes sortes de choses qui sont difficiles. Il y en a qui commencent à marcher et qui vont s'arrêter. Il y en a qui vont faire des allers-retours, etc., etc. Dieu sait. Et si, véritablement, il nous donne cette vie, c'est pour que nous puissions faire les choses comme il les a prévues lui-même. Joseph a été l'architecte de la dernière demeure de Christ. Oui. Une sépulture dans le roc. Hein. Renonçant à son éminente position, se sacrifiant lui-même et mourant, finalement, eh bien, à sa vie propre. Alors, venu trop tard, on rate des occasions, quelquefois, dans la vie, hein, les choses indifférentes, hein, les bonnes occasions, quelquefois, dans les choses matérielles, dans les choses, enfin, peu importe, hein, vous comprenez. Venu trop tard, moi, je vous dirais non. Dieu a encore quelque chose pour chacun d'entre nous. Maintenant, ça prend du temps pour décoder, pour comprendre, pour se préparer. Parce que si Dieu nous envoie, il va nous donner les outils. D'une manière ou d'une autre, vous n'allez pas partir comme ça. Vous n'allez pas partir sur un coup de... Moi, je ne sais pas, ce qui fait de ces gens-là des fanatiques. Des gens qui sont un petit peu des mystiques. Non. Mais Dieu est en train de préparer pour que nous puissions continuer et réussir. Moi, je dirais que nous ne sommes pas... Ne venons pas trop tard, mais... Joseph est venu tardivement. On pourrait l'expliquer de cette manière. Ne tardons pas. Ne mettons pas notre drapeau dans notre dos. Vous savez, on vit une drôle de période. Hein. Aujourd'hui, pour faire de l'évangélisation, pour parler aux gens, à travers finalement eh bien, tous les débats qu'il peut y avoir sur les religions, sur toutes sortes de choses. Et puis, il faut dire aussi, il y a quand même aussi des populations que nous rencontrons qui sont ultra fermées. Hein. Faut bien le dire. Ou alors, tout simplement, c'est... Ils veulent bien du sacrétisme chrétien, mais religieux plutôt. Mais alors à ce moment-là, ce n'est pas finalement eh bien, ce qu'il convient. La nuit vient et le jour est à son déclin. C'est pour votre service. C'est pour que vous puissiez vous-même vous préparer, non pas au passé, vous le connaissez le passé. Vous connaissez votre présent, vous le vivez, vous le respirez. Mais c'est notre avenir. Et on a encore de l'avenir même quand on a 73 ans. Je crois. Alors, la nuit vient et le jour est à son déclin. Disciples du soir, à l'heure tardive, il ne sera jamais trop tard pour Dieu. N'attendons pas les ténèbres épaisses de la nuit pour déclarer que nous aimons Jésus, parce que c'est ça notre témoignage. C'est pas de raconter la doctrine de la pneumatologie, c'est le Saint-Esprit, ou de dire quelquefois il y a des chrétiens qui s'amettent à citer les toute l'histoire d'Israël à des gens qui ne connaissent rien, ils sont même pas juifs, hein, ils sont simplement peut-être catholiques. Non, c'est pas la peine de faire du baratin. Non, mais de dire que nous aimons Jésus, mais non seulement de le dire, parce que là il y a un problème, c'est de le vivre. Et Joseph l'a vécu, hein, qu'il aimait Jésus. Et dans des circonstances, et dans des conditions tout à fait particulières. Hein. Ouais, dire que nous aimons Jésus, car il est mort pour nous sauver. Il y a ce texte que nous avons dans le livre des Hébreux, où il nous est dit cette parole. Je la cite, j'en ai pas cité beaucoup ce matin, je vous ai épargné. Il est dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, c'est le salut, hein, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée et que nous avons, nous, notre part, à l'annoncer aux autres. » Avec intelligence, avec tact, avec respect pour les autres, et puis les laisser peut-être vous raconter leur histoire, vous comprendrez peut-être mieux comment il faut vous y prendre pour leur parler de Jésus. Ça, c'est bien possible. Alors, moi je crois que dans tout cela, eh bien, il y a des choses qui peuvent être intéressantes et être prises par l'histoire, par le témoignage de cet homme. Et nous avons besoin de comprendre, et je termine, de passer de l'ombre à la lumière, sans craindre, finalement, le monde dans lequel nous sommes. Craignons donc, je termine avec ça, tandis que la promesse subsiste encore, qu'aucun ne paraisse être venu trop tard. Jésus est mort. Joseph, on est sûr, il l'a vu, il a suivi les derniers instants de vie de Jésus, peut-être, mais le reste, son ensevelissement. Mais bientôt. Eh bien, il ne le sait pas encore, mais il va le voir d'ici quelques heures, un jour ou deux. Il le reverra vivant, ressuscité. Mourir pour revivre. C'est ça, mourir pour revivre. C'est le message de la terre. C'est le message que Joseph d'Arimathée nous laisse. C'est le mystère pour tous les hommes, nous ne savons pas. Et peut-être pour réconforter certains d'entre vous. Dans ces temps, peut-être qu'ils traversent difficiles, certainement difficiles, de peine et de tristesse. Écoutez bien. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est pas la raison, c'est pas le cérébral qui fonctionne seulement. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est le principal. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que les expériences heureuses, les expériences de bonheur sont nombreuses, mais il y a aussi des peines, il y a des chagrins. Et nous, nous devons véritablement avoir une assurance et cette certitude confirmée par le Saint-Esprit dont nous avons été, en effet, eh bien, baptisés, dans lequel nous avons été baptisés, pour comprendre, pour réaliser, pour aider à percevoir les choses, qu'en effet, nous ne sommes pas sans espérance. Nous ne sommes pas sans espoir. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à la foi. Nous voulons te remercier et te bénir. Nous sommes avant tout des soldats. Nous sommes avant tout des témoins. Nous sommes des apôtres, des prophètes peut-être. En tous les cas, des évangélistes, certainement. Et nous voulons te demander, Seigneur, que nous ne nous cachions pas. Si nous avons la possibilité d'être à la pleine lumière pour montrer la grande lumière, la lumière du ciel, parce que Jésus le dit, « Je suis la lumière du monde », alors à ce moment-là, nous avons véritablement besoin que tu nous viennes en aide. Mais, Seigneur, nous voulons croire que, Père éternel, tes œuvres sont merveilleuses, mais elles sont aussi mystérieuses. Alors ce n'est pas nous à faire des déductions, ceci, cela, de nous enfermer dans une tristesse qui n'est pas fondée, une tristesse qui est en effet exploitée par un ennemi qui, lui, n'est pas le prince de la vie, mais le prince de la mort. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-nous à la ressemblance de Joseph d'Arimathée, eh bien, de vivre ce que nous avons à vivre, et puis de garder, en effet, le principal, l'essentiel, c'est que Jésus est venu sauver tous les hommes, tous ceux qui invoquent ton nom, eh bien là, sont sauvés. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen. Amen.